Hashtag le MagSport. Avec Loïc Colombier.
Et bonjour, chers amis sportifs. Bienvenue à l'antenne de Radio Albigès pour Automag Sport du 6 avril 2018 qui sera dédié à notre ami Bernard Bacab, trop tôt disparu. Bernard Bacab, ancien joueur du Castres Olympique, du Sporting Club Rouilletois, du SC Briatex et président du SMAD Cap Découverte, vient de disparaître brutalement ce jeudi 5 avril 2018. Au nom du Mag Sport et de Radio Albigès, nous tenons à présenter nos plus sincères condoléances à sa famille et ses proches. Toujours affable et souriant, Bernard Bacab, ses valeurs humanistes ancrées au plus profond de lui-même, savait, comme lors de la préparation du Festi Rugby, dont il fut une des chevilles ouvrières, faire montre d'écoute, de volontarisme, tout en étant un homme de parole. Pour tout cela et bien d'autres choses, le monde du rugby tarnais et du sport en général vont te regretter. Adesias, Bernard. Malgré cette nouvelle qui nous affecte, tous nous allons dérouler notre mag de ce jour avec un sommaire des plus complets, car nous parlerons de motocross, de canoë-kayak, de foot bien sûr, avec Théodore Genoux qui fera un petit bilan avec nous sur ses 9 premiers mois passés au sein de la SPT Albi Féminine et de son objectif maintien en D1. Mais nous allons bien sûr commencer avec le Sporting Club Albigeois qui rentre dans la dernière ligne droite de ce championnat de Fédéral 1 Elite avec la réception ce samedi en direct dès 19h sur les rondes de Radio Albigès des Normands de Rouen. Et non, c'est pas le débarquement en Normandie, mais les Normands qui débarquent en terre Qatar. Car pour les jaunes et noirs, on est dans le Money Time et ce match au stadium municipal, où on espère un stade plus que garni avec une ambiance des plus calientes, pour être le dernier en cas de première place de qualification directe à la Pro D2. Pour ce faire, les jaunes et noirs doivent enchaîner les victoires en espérant que les Provençaux soient au moins tenus en échec sur les terres de Roval, pour le moment invaincus à domicile dans ce qui serait un derby déterminant pour le dénouement de ce championnat. Beaucoup de si, me direz-vous, mais à cœur vaillant, rien n'est impossible, puis ce SCA version 2018 surfe sur une spirale positive, comme en atteste la balade en Ardèche ponctuée d'un 49-0 dimanche dernier. Mais les Normands, même s'ils ne viendront pas avec l'équipe type dans la préfecture du Tarn, n'en reste pas moins une équipe redoutable qui, avec ses accents so-british, a des airs de petite Angleterre. Car même si son entraîneur anglo-saxon et ex-international anglais, allez on va le dire à la britannique Mr. Hill, est un vrai fanfaron en claironnant dans la presse et à tout va qu'il vise le top 14 sous 3 ans, il faut quand même ne pas galvauder cet obstacle qui, soi-disant, a quelques petites faveurs de la Fédé et qui pourrait être un des probables adversaires du SCA lors des phases finales. Au cas où Albi n'arriverait pas à doubler au finish nos amis provençaux qui, eux, se déclarent dans la presse déjà en Pro D2. Pour prendre le pouls de ce match qui fleure bon déjà les joutes et les matchs couperés et qui se doit d'enthousiasmer le peuple jaune et noir, qui de mieux que le coach du SCA pour venir sur ce dernier opus à domicile.
Arnaud, bonjour.
Bonjour.
Donc c'est peut-être, et on le souhaite ardemment, le dernier match du Sporting Club Albigeois de la saison au Stadium. En cas de victoire, vous pourriez jouer une finale à distance avec Provence Rugby plutôt. Ça serait quand même le top.
Oui, bien sûr, oui. Oui, bon, on ne passe pas trop à tout ça. On va essayer déjà de régler le souci de ce week-end parce que ça va être un match très compliqué. C'est une grosse équipe. qui est sûrement. Ils ont fait une seconde partie de championnat, je crois, très positive. Donc voilà, non, on passe pas trop à cette première place. On continue à prendre les matchs les uns après les autres.
Et le fait que les Aixois se voient déjà en Pro D2, même dans la presse, ils se disent déjà en Pro D2, c'est une source de motivation pour votre groupe ?
Ouais, de motivation. Puis après aussi, certainement, indirectement, ils se mettent aussi la pression sur le dernier match. À force de chanter, c'est compliqué après. Le plus dur, c'est d'assumer dans ce sport. Et donc voilà, de faire un profil bas, des fois, c'est pas plus mal. Donc après, là, c'est eux qui se mettent la pression sur les épaules, mais ça, c'est pas mon souci, moi.
Le match au Stadium contre Rouen, bon, vous l'avez dit, en pleine bourre, et ils ont aussi un enjeu hein, dans ce championnat, donc ça va être aussi un match serré. Comment vous allez les manœuvrer, alors que c'est une équipe très joueuse?
Mais comment on va faire? On va essayer de tenir un peu le ballon, hein, parce que sur les contres, ils sont forts, donc il va falloir qu'on soit bon dans la conservation. Après, il va falloir... Vu les conditions climatiques, apparemment il y aura du vent, donc il va falloir être bon dans la gestion du jeu au pied. On sait très bien que les Britanniques ils savent très bien gérer ça. Puis après, il va y avoir ce que je demande aussi, c'est d'avoir ce petit supplément d'âme qui va faire que ce match va tourner en notre faveur. Il faut qu'on ait un taux d'agressivité assez élevé sur les phases de contact et il ne faut pas accepter de perdre les duels. C'est une équipe qui gagne quand même beaucoup de duels avec des joueurs très costauds dans des postes clés. Donc il faudra qu'on s'y mette en face réellement samedi. Quoi.
Vous sentez l'engouement aussi ici, Albi ?
Ouais, bien sûr, on voit que ça mais le 15 septembre, c'était pas quand même l'euphorie. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a quelque chose qui se crée autour de nous. Donc je suis très content parce que les joueurs, ils vont avoir besoin de tout le monde. Les matchs serrés, les matchs difficiles, les matchs compliqués à jouer, l'appui d'un public un peu euphorique est important pour le groupe, ça va faire du bien. Dans les temps faibles, il est toujours important d'avoir le soutien des supporters. Donc voilà, je suis très, très content. Et puis aussi, on a nos anciens des générations 2001, 2006, 2009 qui seront là aussi. Donc c'est bien, ça va permettre de revoir beaucoup de monde qui ont quand même écrit pas mal l'histoire de ce club.
Il se dit dans la presse rouennaise que Rouen va venir avec une équipe hybride, moitié titulaire, moitié équipe bis, pour pas trop se dévoiler en vue des phases finales. Par contre, vous, à Albi, vous êtes obligé de mettre carte sur table pour aller essayer de croquer Provence. Comment on gère un match avec ce contexte?
Déjà, ils font une tournée parce qu'ils ont les 6 joueurs qu'ils n'ont pas mis, c'est 6 blessés ou incertains. Hein, ils ont pas... Alors bien sûr, sûrement que si ça avait été le match chez eux d'avoir gagné, ils les auraient fait tirer avec des straps, mais... Ils n'ont pas trop fait tourner, mais pour nous, je fais tourner quasiment depuis le début de la saison. Donc là, on a fait un bloc de 5 matchs, on a quand même plus ou moins fait tourner les mecs. Bon, il y a 2-3 postes aussi qu'on a tiré un peu dessus. On a fait une semaine assez légère au niveau de l'intensité pour justement jouer un peu sur la fraîcheur. Mais nous, on se concentre surtout sur... Je sais très bien que de jouer des fois 6 mecs qui n'ont pas joué trop souvent de Rouen, ils vont vouloir montrer au coach que pour les phases finales, il faudra compter sur eux. Donc des fois, ce n'est pas des bonnes nouvelles non plus.
On sait que la semaine dernière, vous aviez une infirmerie qui était un peu bondée, on va dire. Elle s'est un peu désemplie ?
Oui et non. On a été épargné pendant 6-7 mois. Et là, on a quelques blessures de joueurs quand même importants. On a réussi à passer à Bourgoin et à Aubenas-Saint. Maintenant, on a joué 2 équipes qui n'avaient rien à voir dans ce championnat parce qu'ils avaient lâché mentalement. Et là, sur un match comme celui-là, on va voir si nos joueurs un peu moins cadres, s'ils ont tout pour remplacer les anciens.
Alors hier, il y avait une réunion au sommet à la FFR pour voir la nouvelle mouture de la Fédérale 1. Quand on en voit ce qui en sort, la Fédérale l'année prochaine, ça va être un gros brassage, on va dire un traquenard, un guet-apens pour gros calibre.
Oui, mais ça va être surtout, déjà, je pense, ça va être plus centralisé, donc ça sera beaucoup plus de recettes et beaucoup plus de derby et de joueurs, de matchs un peu avec sûrement des disparités dans le niveau. Il y aura sûrement 2-3 équipes fortes par poule, quoi. Donc ça va être un peu compliqué. Ça sera le plus dur à gérer. Après, ça sera quand même bien. C'est toujours important et bien de jouer des matchs un peu. Ou des derbies ou des matchs proches. Quoi. Mais après, c'est sûr que ça va être une saison longue, quoi. Parce que parce que ça va être comme c'était avant, quoi. Et donc c'était, ça sera un peu amélioré, mais celui qui va monter, il aura fallu qu'il cravache durement.
Donc ça donne une raison de plus de monter directement ou après les phases finales de cette année?
Oui, bien sûr, oui. On ne se pose pas trop cette question-là aujourd'hui. On continue un peu sur l'euphorie, on va essayer de continuer là-dessus. Après, on verra comment ça se passe d'ici le 25 mai, mais on pense pas trop à ça, quoi.
Et on voit que les concurrents à la montée, Provence et Rouen, annoncent déjà des arrivées, des transferts. C'est pas compliqué quand on ne sait pas si on va être en fédéral ou en Pro D2 pour recruter. C'est pas quand même un peu des choix cornéliens des fois à faire, hein.
Ben après, il y a deux façons de voir les choses. C'est où on est comme Rouen, où ils ne sont pas sûrs de monter, mais par contre, ils ont un budget qui est double du nôtre. Donc, ben, tu dissuades des mecs plutôt que de les faire patienter, hein, en mettant des salaires qui sont beaucoup plus élevés que ce qu'on est capable d'assumer ici. Et sinon, tu es comme nous, ben, tu es obligé d'essayer de séduire par le jeu que tu produis et par voilà, l'historique de ce club qui est quand même attractif pour pas mal de joueurs français. Mais par contre, eh bien, ils font prendre son mal en patience et attendre les résultats pour pouvoir avoir les décisions positives, quoi.
Et ce groupe, maintenant qu'on arrive dans le Money Time, comment vit-il ce moment qui est crucial pour le club?
Là, cette semaine, ils ont vraiment fait une bonne semaine. Je pense qu'aussi, voilà, on leur a montré des images de Rouen. Ils se sont mis en état d'alerte un peu. Quand on joue un match compliqué, un match important et sur une grosse équipe, contre une grosse équipe, ils sont en éveil. Voilà, là, ils ont été très en éveil cette semaine. Il y avait beaucoup de joie, on sentait qu'il y avait de la bonne humeur, donc c'est positif. On a eu quasiment que du beau temps sur la semaine, donc ça aussi, ça fait du bien pour la tête. Donc voilà, je suis confiant sur l'état d'esprit des joueurs. Ils ne se sont pas fait chier pendant 6-7 mois pour s'effondrer sur un match comme ça.
Allez, revenons un peu sur le cas de Gaëtan Bertrand. Ils prennent deux matchs de suspension. On voit que les Aixois qui, eux, s'étaient fait expulser, n'en prennent qu'un. Cette disparité, vous interloque pas un peu?
Ouais, mais tu sais, nous, on va continuer à bosser. Il y a plein de choses qui m'auront bien cassé les couilles cette année. Mais voilà, c'est comme ça. Il faut aller se le chercher. On va rien dire. On va ronger son frein. Et si la victoire y est à la fin, elle sera encore plus belle. Et puis je saurai faire passer les messages au bon moment. Parce que voilà, il y a eu des incohérences tout le long de la saison. Et souvent en faveur de certains et surtout en défaveur de d'autres. Et en l'occurrence, nous. Donc on va ronger notre frein et puis on verra ça plus tard, mais en tout cas on n'oubliera pas.
Allez, la question de la conclusion, les maîtres mots de ce match?
Ouais, patience, discipline et plaisir.
Merci Arnaud. Après avoir écouté le manager du Sporting dans une conférence de presse réalisée avec nos confrères de Radio 100%, de la Dépêche, du Tard Libre et du site des Bénévolutions, il ne nous reste plus qu'à vous égrener les gladiateurs qui vont affronter ces terribles descendants de Guillaume le Conquérant. En première ligne, nous retrouverons Bastien de Dieu, l'enfant du pays, en pilier gauche, avec au talon le généreux et vaillant catalan Romain Casals, accompagné notre géorgien local, en pilier droit, Zaza Navrosashvili. Mathieu André est toujours de repos après son opération subie suite à sa crise de tachycardie, mais rassurez-vous, il va mieux et était même plutôt fringant ce matin lors de la mise en place à laquelle il assistait en tant que spectateur. Il n'a pas manqué de nous souligner qu'il serait bon pour le service en cas de phase finale, mais qu'il espérait secrètement ne pas avoir à rejouer cette saison, ce qui signifierait qu'on est grillé sur le poteau et au finish, Provence rugby. C'est tout le mal qu'on souhaite au Sporting. Donc, pour le suppléer, ainsi que Rus Bouguerou, lui aussi sur le flamme, mais pour le reste de la saison, Arnaud Mella alignera l'attelage Weton Tonga, qui a fait merveille face à Bourgoin. En troisième ligne, le bondissant et besogneux basque Assier Usarga sera aligné avec Vincent Calas et ses longues échasses. Et bien sûr, nous retrouverons en troisième ligne centre notre perforateur préféré, Tounou Tava Léa. La charnière sera classique avec le motivateur en chef Thibaut Bisman à la mêlée et son capitaine à l'ouverture, Super Barté, alias Romain Barthélémy. Les lignes arrières seront les suivantes, sur les ailes Thomas Lassel et Saïmoni Nabarro, tandis que Toux Wassinibu et François Vergniaud seront au centre. Bien sûr, à l'arrière, nous retrouverons Mathieu Peluchon, le métronome de la pénalité et des transfos. Les remplaçants seront les suivants. Ralph Pau-Njike, Romain Olé, Lumu Tafili, Chris Tafili, Gianni Gaillard, Paul Faré, Laura Magnaval et Benji Kaminaki. Kaminaki plutôt, pas Kaminaki. Et en 24e et 25e homme, on trouvera Martin Doan et Jean-Jacques Jimaël. Maintenant, la balle est dans le camp des joueurs pour que vive ce fol espoir de remontada sans passer par les phases finales. Et nous serons avec Seb Pagès et Didier Rovellat, notre consultant supporter, qui palliera le forfait de notre ami coach Vinch à la Vincent Clément, retenu à Paris, sur les ondes de Radio Albigès, bien sûr, dès 19h pour faire suivre ce match. Par contre, comme vous l'avez sûrement entendu ou lu, la Fédérale 1 va encore faire peau neuve, puisque hier, une réunion au siège de la FFR a eu lieu en présence de tous les présidents de club. Il est encore plus impératif de monter dès cette année, car la nouvelle mouture adoptée hier a tout du guet-apens pour ancienne gloire de l'Ovalie. Comme pressenti et redouté par le président Roumégoux, qui avait fait partie des 10 présidents qui ont prêché son maintien hier, je parle du maintien de la Fédérale 1 élite, eh bien cette Fédérale 1 élite est bel et bien enterrée depuis hier soir. Le président Jaune et Noir, que nous avons joint téléphoniquement à l'issue de la réunion de hier, nous a donné tous les éléments sur cette Fédérale 1 New Look version 2018-2019. Enfin, new look, non, car on revient quasiment à ce qui se faisait en T 2016. 4 poules de 12 avec 2 clubs de Fed 1 Elite en tête série et les 2 premiers qualifiés pour des quarts de finale aller-retour. Les demi-finales aller-retour verront s'opposer, bien sûr, les 4 vainqueurs de ces quarts de finale, mais la petite... nouveauté, c'est que dans ces 4 demi-finalistes, il faudra compter parmi les clubs qui seront encore en lice, au moins 2 équipes structurées pour la Pro D2, sinon pas de montée. Enfin, on finira par des finales aller-retour qui verront monter le vainqueur. Et par contre, concernant le finaliste, on ne sait pas trop encore s'il devra passer par un barrage ou non avec l'avant-dernier Pro D2. Mais bon, on s'oriente plutôt grandement vers... le système du barrage, puisque depuis quelque temps, ça se murmure dans les instances. En clair, les écuries de Pro D2 seront de plus en plus protégées et au gré des déboires financiers ou structurels récurrents des clubs de Fédéral 1, pourraient quasiment s'apparenter à une ligue fermée. Encore pour certains suiveurs, une usine à gaz. Seul avantage, il y aura un brin plus de matchs que cette saison, donc plus de recettes billetteries. Un maigre lot de consolation. C'est pour cela que l'SCA doit impérativement revoir sa Pro D2 dès cette saison. Et dans ce cas, il faudra, comme nous l'avait signifié le président du SCA vendredi dernier entre micro, 6 à 7 joueurs supplémentaires. Un dossier auquel il laisse toute latitude à son manager, Arnaud Mella. En fin de conférence de presse, comme nous étions d'humeur badine, avec notre confrère de la Dépêche Eric Théron, nous avons un brin titillé le coach du Sporting sur le sujet. Le temps de rallumer notre micro, et l'ancien briviste nous avait déjà dit qu'il souhaitait recruter un second de latte et un troisième ligne centre. Pour le reste, nous vous laissons écouter notre berger Bigourdan.
Il y aura sûrement aussi une rentrée d'un ailier, sûrement d'un joueur polyvalent aussi qui pourra jouer 10, 12, 13, 15, un joueur... qui pourra nous couvrir pas mal de postes, mais qui est quand même à la base un 10. Voilà, peut-être un ou deux ailiers selon. Et après, en première ligne, on verra si selon ce qu'il y a sur le marché, si on fait une recrue supplémentaire. Ouais. Voilà, ça va faire 5-6 joueurs. Voilà.
Ouais, après, les 3/4 des joueurs sont repris. Quoi. Enfin, ils avaient déjà des contrats ou,
Oui, j'ai pas de joueurs sortants cette année.
Il
n'y
a pas une prolongation
Non, il y avait, puisque je suis arrivé l'an dernier, on a prolongé les gars qui sont restés. Du coup, cette année, c'était plutôt une année un peu de transition. Quoi.
Ouais. Tu comptes faire un peu comme l'année dernière, en partie ton marché à Brive?
Je fais ce que je peux, mais j'ai pas réfléchi à tout ça encore. J'ai regardé des joueurs accessibles pour nous. Qui sont proches de l'état d'esprit sur lequel j'aime bien m'appuyer. Donc voilà, ça sera des mecs qui ont envie de se donner pour les autres et pour le club d'Albi et pour la région.
Des joueurs de Pro D2 déjà ou
Il y a des joueurs de niveau de Pro D2 ou de Fédéral Unédite aussi. Voilà. Après, on verra sur la fin. Il y aura bien peut-être un joueur supplémentaire.
Enfin, avant de rêver à des noms clinquants au stadium, la saison prochaine, va falloir se départir de Rouen dès ce samedi sur le pré et cela ne sera pas une mince affaire. Donc nous réitérons notre appel, amis supporters SLA, tous au stadium dimanche ou derrière vos postes radio pour suivre dès 19h à ma compagnie celle de Mister Pagès et de Didier Revelat, le dernier round de ce championnat de Fédéral 1 Elite à domicile pour que les joueurs jaunes et noirs soient transportés par le public jusqu'à la Pro D2. Et puis, à l'issue de la rencontre, on pourra tous exulter ou refaire le match à la Bodega des joueurs, vrai lieu de convivialité du stadium. Allez, pour se donner un brin de baume au corps, on va finir avec, comme à l'accoutumée, l'éveil de match, le... Allez, sur cette belle musique maintenant, passons à un autre sport, un peu moins suivi par les spectateurs, mais tout aussi passionnant, le canoë-kayak, avec une annonce de notre consultant maison. Nous sommes avec notre consultant canoë-kayak de Radio Albigès, notre kayakiste préféré, Bernard Ayer. Bernard, bonsoir.
Bonjour. Bonjour à tous.
Donc Bernard, vous êtes à notre micro pour nous annoncer une très bonne nouvelle qui va se dérouler dans la vallée du Viaur.
Oui, effectivement, le 22 avril, c'est-à-dire le dimanche 22 avril, il y aura le rallye du Viaur. C'est une manifestation qui se déroule depuis une trentaine d'années, mais qu'on essaie de développer depuis quelques années.
Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le parcours et sur les modalités d'inscription ?
Alors, concernant le parcours, la descente est d'environ 12 km. Elle part du pont de la Roque, commune de Jouqueviel, jusqu'au camping du Gourpassou, commune de Bord-et-Bar dans l'Aveyron. En parallèle, il y a une rando pédestre organisée par l'association Viaur Vivant. Alors, les inscriptions se feront le jour même à 9h au pont de la Roque concernant la descente kayak et concernant la rando, ça se passera au pont de la Bicasse à 9h aussi. Par ailleurs, il est préférable de réserver auparavant.
Alors, cette vallée du Viaur, en termes de difficulté pour les kayakistes, ça, c'est quel niveau, c'est quel ressort ?
Alors, elle est... Elle se situe, c'est un parcours classe 2 avec des passages classe 3. Donc, pour des kayakistes confirmés, c'est une balade. Par contre, pour des kayakistes débutants ou pour des sportifs, c'est une descente à sensation.
D'accord. On vous entendait parler aussi de la commune Jacqueviel. On imagine qu'en termes d'organisation, c'est tout un barnum, on va dire, et qui a besoin de pas mal de partenaires. Vous pouvez nous en parler un peu plus, des gens qui vous soutiennent dans cette initiative ?
Alors, le rallye du Viaur, c'est en fait une manifestation de partenariat qui concerne l'eau capiale qui se trouve à Saint-Jury, les sections canoë-kayak et randonnée, l'association Viaur Vivant, qui est une association de promotion et de défense de la vallée du Viaur, et par ailleurs, le CDCK, c'est-à-dire le comité départemental de canoë-kayak. Et enfin, la commune de Jouqueviel, par le biais de sa mairie, qui offre l'apéro, notamment durant le repas. Et aussi le comité des fêtes de Jouqueviel, qui organise le repas.
Donc, toute la vallée du Viaur et même au-delà qui est fédérée autour de cet événement. Alors on va vous laisser la parole de la fin en essayant d'inciter tous les Tarnais et même les Aveyronnais puisqu'on est à la lisière du Tarn et l'Aveyron à venir vous rejoindre pour ce week-end, on va dire, assez sympathique.
Oui, alors concernant la descente canoë-kayak, c'est une descente ouverte à des kayakistes, bien sûr. Donc, il y a beaucoup de clubs de la région qui viennent. Mais depuis quelques années, nous ouvrons aussi à des clubs sportifs qui ne sont pas pratiquants de canoë-kayak, mais qui ont envie de recréer de la cohésion dans le club et de vivre des sensations tout en découvrant un site magnifique. Et aussi des comités d'entreprise ou des individus qui souhaitent découvrir un lieu magnifique et en même temps vivre des sensations intéressantes. C'est pour ça qu'on organise une descente découverte sportive encadrée par des BE et avec un packaging qui s'élève à 20 euros. Là-dedans est inclus le repas.
Ok, bon, ben, rendez-vous est pris le 22 avril entre le Pont de la Roque et Beaurevoir pour venir passer une après-midi sympa en votre compagnie et en compagnie de tous les bénévoles de cette association pour faire du canoë-kayak et même un peu plus puisqu'il y aura aussi de la randonnée.
Tout à fait. Alors je remercie Radio Albigès et je vous donne rendez-vous au 22 avril. Au revoir.
Merci Bernard. Alors merci à Bernard Rayet, un de nos consultants en sport qui ne manque pas de nous faire vivre avec Alan sa passion pour le canoë. Allez, maintenant passons à une breaking news avec un événement exceptionnel ce week-end. Nous sommes avec Alain Rey, un des animateurs du Grand Prix de motocross de Castelnau-de-Lévis, du circuit de pêche rampant. Alain Bonsoun, bonjour.
Oui, bonjour Loïc.
Donc ce week-end, une grande nouvelle, une grande fête va avoir lieu au circuit de pêche rampant puisque vous fêtez le 50e anniversaire du Grand Prix de Castelnau.
Oui, tout à fait, 50 ans de ce club. Donc, la première épreuve s'est déroulée en 1968, avec depuis la consécration pour toute une équipe, les présidents qui se sont succédés jusqu'en 1986, date à laquelle Alain Bossebeuf a pris les destinées de ce club, et consécration pour les bénévoles, puisque plus d'une quinzaine de grands prix, c'est-à-dire des épreuves comptant pour le championnat du monde de motocross, que ce soit en solo ou en side, se sont déroulés à Castelnau, et bien évidemment des championnats d'Europe et des championnats de France. Ce qui se fait de mieux au niveau national.
Alors, pendant ces 50 ans d'existence, il y a dû avoir quand même des moments marquants au sein de ce Grand Prix. Quels sont, on va en citer trois moments qui vous ont marqué pendant ces 50 ans de Grand Prix à Castelnau.
Alors, trois moments qui ont marqué le club, bien évidemment, c'est ce Grand Prix de France en 1991 où il y avait quasiment 15 000 personnes autour de ce circuit avec la victoire d'un Britannique que personne n'attendait, âgé de 21 ans, Paul Malley, qui a surpris tout le monde. Et en parallèle de cette épreuve, où on avait vu Michael Pichon, le futur double champion du monde de 250, s'imposer bien évidemment à Castelnau-de-Lévis. Après, je vous dirai une épreuve qui s'est déroulée en 1980, où le speaker, qui sera speaker également ce week-end, Jean-Marie Rieu, a enflammé ce site magnifique et cette épreuve ce jour-là avec le Suédois Håkan Carquist, champion du monde de 250 en titre, qui devait être champion du monde trois ans plus tard en 500 cm3. Et ce jour-là, il y a eu une course fantastique qu'il a notamment opposée au leader français de l'époque, c'est-à-dire Jean-Jacques Bruneau. Jean-Jacques Bruneau qui était pour la première année de sa carrière pilote officiel Suzuki. Et on a eu droit à trois manches d'anthologie avec la victoire du Suédois en première manche, la victoire de Bruneau en seconde manche. Et en troisième manche, Jean-Jacques Bruneau a crevé, Håkan Carquist sur un ennui mécanique a dû abandonner. Et au général, c'est le Norvégien Christoffersen qui l'a emporté. Mais nous avions cette année-là un plateau de folie avec les Français. Il y avait le Suédois Leif Niklasson ou encore le Finlandais Matti Tarkonen. De 250 à l'époque. Et ensuite, bien évidemment, on ne peut que saluer la victoire de Jacky Vimon en 1988. Jacky Vimon qui fut champion de France 250 en 1986 et qui malheureusement n'est jamais revenu au top de sa forme suite à un accident au Paradis d'Athènes en novembre de cette même année où il fêtait ce titre de champion du monde.
Alors pour revenir, parce qu'on sait que vous êtes une mémoire vivante du sport mécanique et pas que même du sport en général, Alain, pour revenir à cette édition, à ce 50e anniversaire, quelles vont être les courses qui vont faire date ce week-end?
Alors ce week-end, les courses qui vont faire date, eh bien, c'est un championnat du monde, donc Grand Prix de France de motocross, une discipline en plein essor, très spectaculaire bien évidemment, puisque un pilote et un passager à ses côtés qui se tient là où il peut. Donc Grand Prix de France, championnat du monde pour la énième fois à Castelnau-de-Lévis. Il y aura également le championnat d'Europe de quad. Il y a une épreuve open nationale qui réunit les meilleurs pilotes régionaux et le championnat des Pyrénées ou de la championnat régional cadet 85 cm cubes, pardon.
Un plateau assez costaud pour ce 50e anniversaire,
oui,
qui a été fêté dignement.
Un plateau assez costaud qui sera étoffé à l'Ocadate, qu'on peut déjà cocher sur les agendas, qui 14 et 15 juillet, avec le championnat de France élite, c'est-à-dire qui regroupe tous les meilleurs pilotes français dans les catégories 125-250 cm cubes.
Voilà. Grosso modo, on va voir Castelnau, le gratin du sport mécanique moto.
Oui, tout à fait. Ce week-end, en plus, il y a le spectacle, bien évidemment, hein, comme je vous disais, avec les sailles de car, c'est fabuleux, quoi. C'est surtout que le terrain est visible à 80-90% pour le public. Et ensuite, donc, épreuve agrémentée, étoffée, bien sûr, avec le quad, le national et les 85 cm cubes. Et bien évidemment, dans deux mois, le championnat de France élite.
Ok, ben, tous les éléments sont réunis pour que se déroule un superbe 50e anniversaire du motocross de Castelnau au circuit de Pêche-Rampant. Et donc on va inviter tous nos auditeurs à venir sur ce circuit de Pêche-Rampant et puis faire la connaissance des sympathiques bénévoles qui animent cette association pleine de vie.
Voilà, tout à fait, puisque les bénévoles, c'est la force vive de ce club. Ils ont entre 15 et 88 ou 90 ans. Donc certains ont vu le club à ses tout débuts. Et il y a toujours eu ce relais, cette passation de savoir, d'envie, de donner, bien évidemment. Et grâce à ces bénévoles, il faut rappeler que compte tenu d'énormes contraintes sportives, et notamment la moto, que de nombreux circuits en France parus, il y en avait pléthore il y a 25, 30, 40 ans. Et aujourd'hui, Castelnau fait partie des 5-6 plus grands circuits français. Et je pense que les bénévoles ont une part importante de ce côté-là. Et on ne peut que les féliciter une nouvelle fois, bien évidemment.
Eh bien, merci beaucoup Alain Rey pour toutes ces explications très fournies et très utiles pour nos auditeurs. Et on espère vous retrouver très prochainement sur les ondes de Radio Albigès.
Eh bien, merci beaucoup. Merci Radio Albigès. Et puis à très très bientôt. Et merci vous aussi pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup.
Merci. Au revoir Alain.
À bientôt Loïc. Au revoir.
Au revoir. Alors, excusez-nous pour la qualité de cette interview qui fut un brin haché par moment, mais le pluri-active speaker du Sporting, du motocross, était en route pour Odesse où il allait animer le match du RAF face au Restart en national et la communication n'était pas des plus simples sur les routes de l'Aveyron. Mais en parlant du foot et du RAF, cela nous fait une transition toute faite. Passons aux filles de la SPT qui préparent leur derby ardemment face, devinez à qui ? Le RAF, enfin les RAFettes, la version féminine. Mais avant le choc en perspective, dès la semaine prochaine, nous sommes allés à la rencontre d'un des deux co-entraîneurs albigeois, car à Radio Albigès et au Maxport, on s'est dit maintenant...
Calmement, se mémore en chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passé. Beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. Calmement, se mémore en chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans.
Théodore Genoux, bonjour.
Bonjour.
Donc Théo, vous êtes le coach de la SPT féminine depuis juillet 2017, soit quasiment 9 mois. On va dire que c'est l'heure du premier bilan. Donc pour commencer, déjà revenons à la genèse, qu'est-ce qui vous a amené à venir à la SPTT ?
Bon, le projet de la D1, de maintenir ce club en élite. Mm-hmm. Puis pour moi personnellement, c'était ça me permet de franchir un nouveau palier après avoir été champion des deux avec les Girondins de Bordeaux.
D'accord. Donc vous êtes arrivé dans un club où les cartes étaient mises sur table, puisque c'est un club qui joue le maintien depuis maintenant 4 saisons. Vous avez relevé ce défi. Un défi qui, en première partie de saison, était quasiment presque dans la poche, parce que vous voyez 8e, puis à un moment pas loin de la 5e place. Et puis maintenant, depuis un ou deux mois, c'est beaucoup plus compliqué, puisque vous frôlez la ligne de flottaison, on va dire.
Ben, on a fait une superbe première partie de saison. Et après, les clubs avec qui on était en concurrence pour le maintien, on va dire, se sont bien renforcés, il ne faut pas l'oublier.
Bien sûr.
Un club comme Fleury, par exemple, a recruté Claire Lavogé, qui leur a fait gagner énormément de points. Le club de Sceaux s'est renforcé aussi d'une attaquante, Tolmé, qui alors a marqué des buts très importants. Nous, on n'avait pas les ressources financières pour se renforcer, donc avec le même groupe, et ben forcément, c'était vu que nos rivaux se sont renforcés, ça a été un peu plus compliqué. Et là, on a pris un petit peu moins de points.
Alors pour rester dans, on va dire, le positif, plutôt revenir dans le positif, quels sont pour vous les moments les plus cruciaux qu'il y a eu dans ce début de saison et même de ce milieu de saison, et le match qui, à votre sens, est le plus abouti de votre équipe?
Le match le plus abouti pour moi, c'est le match contre Guingamp, au mois de décembre.
Devant le public de Rigaud en plus.
Devant le public de Rigaud, qu'on n'a pas beaucoup gâté, où on avait fait preuve d'une très très bonne maîtrise. Défensivement, on avait été costaud comme d'habitude, et offensivement, je trouve qu'on avait proposé un beau spectacle, avec quand même, on avait été capable d'être en attaque placée. On aurait pu même corser davantage le score si l'arbitre nous avait accordé ses deux buts, parce qu'il y avait une main et un but qui était rentré. Donc je pense que c'est vraiment un match abouti contre une équipe de Guingamp qui, mine de rien, au niveau des résultats, est capable d'aller gagner au Paris FC. Donc on voit quand même que c'est quand même une belle performance, quand même, qu'il y a des internationaux, donc très très belle performance.
Alors on va vous poser la question de la plus grosse désillusion de la saison, mais on a déjà une idée, j'imagine que ça va être ce match très récent contre l'OM.
J'ai pas compris votre question.
La plus grosse désillusion de la saison.
Ah bah la plus grosse illusion, oui, c'est sûr, c'est cette défaite contre Marseille qui était, je pense, lorsqu'on les a rencontrés à l'agonie, parce qu'ils venaient de perdre contre Lille 2-0 à domicile. Voilà, ça a été un non-match, on est passé complètement à côté. Ce qui m'a le plus fait mal, c'est qu'on n'a pas été capable de réagir, parce que dans un match, vous pouvez passer à côté pendant 30-40 minutes, mais après vous avez des capacités de réaction. Et on les a pas eu, on a été vraiment pendant 90 minutes très très faible, quoi, dans tous les compartiments. Donc oui, c'est une grosse illusion qu'on est en train de payer, parce que à cause de cette illusion, on s'est rapproché de la ligne rouge, comme on dit, et on va jouer notre maintien contre Rodez à domicile avec moins de points d'avance qu'on aurait pu l'avoir en cas de victoire contre cette équipe là, quoi. Faut pas l'oublier,
bien sûr. Alors, on imagine que vous avez isolé des axes de progression au sein de ce groupe de la SPTT. Quels sont-ils ?
Les axes de progression, pendant la première partie de saison, ça a été beaucoup les coups de pied arrêtés. On a perdu beaucoup de points sur ces phases de jeu-là. Contre le Paris FC, contre Sceaux la dernière minute, et j'en passe. On a su quand même Sam Leroux, on a pris moins de buts défensivement là en 2018 sur ces genres de phases de jeu, mis à part contre Lyon qui en marque contre chaque équipe à chaque match. Donc ça, on a quand même bien su réagir. Après, dans le domaine offensif, on manque encore dans la création, dans la finition. On va dire que c'est le gros problème qu'on a. Alors, avec très peu de buts de marqués.
Alors pour rester un petit brin sur les aspects négatifs, on sait qu'il y a quelque chose qui vous chagrine pas mal, qui vous interloque pas mal depuis que Talbi, c'est les infrastructures dont vous bénéficiez à SPT qui ne sont pas des fois aussi bien que vos attentes, on va dire.
Les infrastructures sont très 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 compliquées, même catastrophiques. On a, c'est vrai, un terrain en herbe qui est complètement inapproprié, qui est des fois pas tondu, qui contient pas mal de trous, donc voilà, qui est pas très bien entretenu. Donc c'est vrai que c'est l'un de nos gros axes d'amélioration, je pense, dans les années à venir, si on réussit à se maintenir, vraiment qu'on réagisse dans ce domaine-là, puisqu'on est quand même loin de nos clubs rivaux. Moi qui ai travaillé par exemple à Bordeaux, dans tous ces clubs pro, ou qui ont quand même des infrastructures beaucoup plus développées. J'espère qu'on va se maintenir, j'y crois encore, j'espère qu'on va le réaliser. Mais d'aventure pour les prochaines années, le championnat va faire que augmenter en termes de niveau, ça va encore plus être dur. Il va falloir vraiment qu'on réagisse au niveau de ces infrastructures. Parce que cette année, ça a été quand même très 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 compliqué pour moi et pour les filles, quoi. Vraiment, là, les filles sont très très courageuses, parce que c'est quand même très très compliqué, quoi. Je vous cache pas que on a eu énormément de péripéties.
Ok. Alors, on arrive quand même bientôt à la fin de cette saison. La question qui commence à brûler les lèvres. Vous et votre binôme, Patrice Garrigue, vous inscrivez dans la durée à l'SPT ?
Ben, nous, on a envie de continuer. Après, il faudra poser la question à Patrice personnellement, mais bon, moi, d'après les derniers échos qu'on a eu ensemble, j'étais encore avec lui la semaine dernière à Lyon, on a dormi dans la même chambre comme d'habitude. Et s'il avait un discours sur le long terme, donc oui, a priori, moi j'aurais envie de continuer. Après, d'abord se maintenir, il faudra aussi travailler pour augmenter et pour améliorer surtout nos conditions de travail. Parce que ce qu'on fait cette année, c'est bien, on s'accroche, mais si on ne s'améliore pas dans toutes ces conditions que j'ai citées, je pense que ça va devenir très très compliqué quoi, sur le long terme, vu la concurrence qui est en train d'arriver et les clubs qui sont en train de monter. On a deux clubs pro qui vont monter, puisque bon, c'est acté, Dijon, FCMS. Le FCMS, ils sont descendus deux fois.
Ils font les yo-yo.
Donc là, ils vont pas vouloir faire les yo-yo. Je pense qu'ils vont mettre les moyens. C'est un club quand même pro. Ils sont en train de faire un championnat très costaud. Dijon, là, quand même des gros moyens. Hein, je connais un petit peu. Je connaissais la coche qui était l'année dernière, Sandrine Bétivier, qui est une amie à moi. Bon, c'est des clubs qui ont un potentiel quand même de rester dans l'élite. Donc il va falloir, nous, clubs amateurs, parce qu'on ne demandait plus beaucoup, et ben qu'on trouve des solutions adéquates pour rester dans l'élite française. Cette année déjà, parce qu'il nous reste encore 4 matchs hyper importants. Et si on par bonheur on reste, bon, je pense qu'on va faire, hein, je suis confiant, il faudra recommencer une nouvelle saison en ayant des actes d'amélioration, quoi, c'est sûr.
Allez, la dernière petite question pour finir et pour revenir sur l'actualité. Comment avez-vous senti vos filles cette semaine d'entraînement qui on va dire, est un peu mal placé parce que vous avez 3 semaines de repos avant un match importantissime face à Rodez. Quels sont les axes jusqu'à ce 22 avril que vous allez donner à vos filles pour que Albi aille arracher ce maintien?
Cette semaine, pour moi, était bonne. Voilà. Content des entraînements, du travail que nous avons réalisé. On a recommencé à s'entraîner depuis mardi, là, parce qu'on avait coupé lundi après le long déplacement de Lyon. Mm-hmm. Bon, que ce soit les séances matinales ou du soir, j'ai trouvé un groupe plutôt concentré. Il y a eu quand même une bonne intensité de travail, hein, c'est vraiment ce qu'on recherche dans les séances. Hier, on a fait une opposition contre les garçons. Bon, même si ça n'a pas été fantastique au niveau du jeu, au niveau de l'impact et du combat, on a su répondre. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. On va monter crescendo. Là, on est sur la fin de première semaine. On va se reposer ce week-end. On a besoin. On va recommencer le de chef dès lundi. Voilà, on va encore faire des oppositions amicales. Donc ça va être important de bien se préparer physiquement, techniquement, tactiquement et mentalement. Et je pense qu'il y aura ces 4 facteurs qui seront importantissimes pour ce match.
Et je sais que vous avez aussi un petit appel à faire au public de Rigaud, parce que vous souhaitez sur un public galvanisé et mobilisé pour venir vous soutenir le 22 avril au stade de Rigaud contre Rodez dans ce derby d'Occitanie et du maintien.
Moi c'est clair, moi ce que je veux, c'est qu'on soit plus que Rodez, parce que d'après ce que j'avais entendu, c'est que les autres années, Rodez venait en nombre et qu'ils étaient plus que nous. Donc ça, c'est pas normal, on doit se faire respecter, on est chez nous, les Alpujois, ils doivent être fiers de leur ville. Je pense que quand même c'est l'équipe vitrine de toute cette ville quand même, pour pas l'oublier.
Tout à fait.
On est quand même même si le rugby va peut-être monter en fédéral en pro deux, nous on est quand même on fait partie de l'élite française du football féminin, ça faut pas l'oublier. Donc on est là l'équipe phare de la ville. Donc je pense que les gens, faut qu'ils se rendent compte un peu des choses, on a besoin de soutien. Il faut qu'ils viennent nous soutenir. Vraiment là, on aura besoin d'un soutien populaire. Avec l'expérience que j'ai eue dans d'autres clubs, je peux vous dire que quand vous avez un gros soutien derrière vous, vous sentez une masse humaine qui vous soutient, qui a envie que vous réussissiez, ça peut que vous aider. Et comme je vous dis, il y a le facteur mental. Et le facteur mental, bon, ça va être nous qui devons bien nous préparer, certes. Mais si on a cette aide-là de ce public-là sur ce match-là, on est chez nous, quoi. On est chez nous, faut pas l'oublier. Donc il est hors de question qu'on entende plus les supporters rodez que les nôtres. On doit se faire respecter, on est chez nous. Donc il faut qu'on soit plus. Donc moi j'avais parlé là de... Pour moi, sur ce genre de match, pour moi il faut qu'on soit plus même que contre Lyon ou PSG, quoi. C'est ces matchs-là qui nous font... qui vont permettre à ce public-là de revenir voir Lyon. Parce que si nous ne gagnons pas ce match-là, ils reviendront pas voir Lyon l'année prochaine. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Donc s'ils veulent voir des stars l'année prochaine, il faut qu'on gagne ce match-là. Parce que c'est pas contre Lyon que le championnat va se faire. Donc s'ils veulent revenir voir du spectacle, c'est sur ce match qu'on va avoir besoin de tous les Alpichois qui aiment le football ou non, quoi. Là, c'est même plus les supporters de football ou les pros de football, quoi. Il faut qu'ils soient fiers de leur ville. On est quand même une petite ville. Voilà, c'est pas une grande ville. Je pense que d'avoir une petite, une aussi petite ville dans l'île française du football féminin,
c'est une belle chose, c'est une belle épopée.
Voilà, et moi, je trouve que contre Marseille, on n'était pas assez. Voilà, pour moi, on n'était pas assez. Alors, à toi, je ne trouve pas l'excuse qu'on a perdu à cause de ça, parce qu'on leur a pas non plus tout fait pour les faire revenir. Hein. Ça, c'est clair. On a quand même déçu notre public, ça, c'est vrai. Mais là, on va tout faire pour pas les décevoir, et je veux qu'on soit beaucoup plus contre Marseille. Il faut que le stade soit plein, quoi. Pour moi, il faut qu'il ait la plus grosse influence, c'est le 22 avril. Voilà, c'est ça le gros match qui va nous permettre peut-être de faire un grand pas dans le maintien, quoi.
Alors ce cri du cœur et ce message est lancé, on ne manquera pas de le répéter jusqu'au 22 avril, que tous les Albigeois viennent au stade Rigaud soutenir les Fiat PT pour cet objectif maintien qui est impératif pour le club rouge et jaune. Et on vous dit à très bientôt, Théodore, sur les antennes de Radio Albigès.
Pas de soucis, merci, au revoir.
Toujours pleine de pêche et d'alance, Théodore Genoux, et il nous tarde de faire aussi le bilan avec son compère Patrice Garrigue, qui lui aussi est toujours des plus avenants à notre micro. Donc vous avez bien entendu le message final de Théodore, il faut tous se déplacer un maximum le 22 avril au stade Maurice Rigaud pour venir soutenir nos vaillantes filles de la SPTT Albi. Pour finir ce Maxport, une petite brève, sachez qu'à 16h demain, samedi, les cadets du SCA affronteront sur le terrain d'honneur du stadium les voisins du CO, du Castres Olympique. Venez nombreux les supporter, ils le méritent et sont l'avenir du club. Sur ce Maxport touche à sa fin et sera réécoutable en podcast sur les réseaux sociaux. Merci à Arnaud pour la technique. Et on ne peut terminer ce Max à avoir une immense pensée pour Bernard Bacab qui nous a quittés et en réitérant toutes nos condoléances à sa famille. Quant à moi, je vous dis rendez-vous samedi 19h sur nos ondes pour suivre les folles aventures du Sporting Club Albigeois dans sa quête de remontada en Pro D2. Adesias et allez le Sporting !